Décryptage, Marie Casadebé.
João Lourenço est en visite officielle à Paris. L'objectif est double pour le nouveau président angolais, économique et diplomatique. Celui qui succède à José Eduardo dos Santos après 38 années au pouvoir affiche ses ambitions pour son pays, redresser une situation économique catastrophique malgré les richesses du sous-sol et rebattre les cartes de sa diplomatie. 8 mois après son accession au pouvoir, que démontre la présidence de João Lourenço? Que retenir des premières mesures prises par celui un temps présenté comme un dirigeant sous influence? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Deux spécialistes de l'Angola avec nous ce soir. Bonsoir Juliane Alima.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante à l'Université catholique de Paris, à Sciences Po Reims. Et bonsoir Didier Péclard.
Bonsoir.
Au téléphone avec nous de Genève, en Suisse, où vous êtes enseignant-chercheur au Global Studies Institute et co-rédacteur en chef de la revue politique africaine. Alors c'est la première visite en France de João Lourenço en tant que président, mais il avait déjà rencontré Emmanuel Macron en juillet 2017, alors qu'il n'était encore que candidat du MPLA. Et puis en novembre, à Abidjan, en marge du sommet Union africaine-Union européenne, Juliane Alima, est-ce que ce changement de visage à la tête de l'Angola transforme aussi les relations entre Paris et Luanda ?
Je pense que la visite de João Lourenço à Paris s'inscrit dans la continuité d'une reprise des relations entre l'Angola et la France. Donc, comme vous avez bien dit, quand il a rencontré João Lourenço, qui a rencontré donc le président français en 2017, quand il était à l'époque candidat à la présidence, mais aussi à l'époque ministre de la Défense de l'Angola. Donc ça s'inscrit un peu dans cette continuité des rapprochements des relations après les relations un peu tendues suite à l'Angola Gate.
Didier Péclard, c'est pas nouveau alors cette proximité entre Paris et Luanda?
Enfin, c'est-à-dire qu'elle a changé effectivement, comme le disait Julien Lima il y a une seconde. Il y a eu des tensions très fortes à partir entre 2000 et 2008 à peu près autour de l'Angola Gate et de la gestion de l'affaire Falcon, comme elle était appelée.
Un scandale, on le rappelle, détente, autour de la vente d'armes qui a touché des personnalités françaises et notamment l'ex-ministre de l'Intérieur.
Voilà, exactement, des personnalités françaises, des personnalités angolaises et qui avaient tendu très fortement les relations entre l'Angola et la France notamment. Mais disons des tensions qui avaient commencé à se résorber à partir de 2008 avec la visite de Nicolas Sarkozy à Luanda et ensuite surtout avec la visite de José Eduardo dos Santos, le prédécesseur de João Lourenço à Paris en 2014, celle de Hollande une année plus tard à Luanda en 2015. Donc ça s'inscrit dans une recherche de normalisation. D'une normalisation de ces relations.
Les deux pays ont des intérêts communs, ça on va le voir. En tout cas, l'objectif de cette visite, elle est double, hein, comme je le disais, économique et diplomatique. Alors économique, hein, parce que l'Angola traverse une crise dramatique. Juste une donnée, le pouvoir d'achat des Angolais a été divisé par deux ces deux dernières années. Et cela pourrait encore s'aggraver avec une inflation de près de 25%. Alors que, Juliane Lima, le pays est riche, hein, riche en pétrole notamment. C'est le deuxième producteur d'Afrique subsaharienne. Là aussi, l'or noir, c'est vraiment un cadeau empoisonné pour Luanda.
Effectivement, les relations d'ailleurs entre la France et l'Angola, elles ont été toujours beaucoup très fortes autour du pétrole avec la présence de Total en Angola. Mais cette visite de João Lourenço, elle a aussi pour ambition de la diversification de l'économie angolaise. Donc justement de essayer de trouver d'autres leviers dans la richesse du pays comme la terre, l'agriculture, la pêche autour de laquelle il affiche l'ambition d'investir et de tisser des coopérations avec la France, notamment dans ce secteur-là.
Parce que pour l'instant, vous parlez de diversification. Pour l'instant, l'Angola n'y est pas.
Non, elle n'y est pas.
C'est le tout pétrole encore.
95% à peu près des recettes d'exportation de l'Angola viennent du pétrole. Et encore entre 50 et 60% des recettes de l'État sont des recettes du pétrole. Après, effectivement, comme vous avez bien marqué, c'est le deuxième pays exportateur de pétrole. Producteur et exportateur de pétrole de l'Afrique, ouais. Mais aussi il y a d'autres richesses comme les diamants qui représentent aussi une partie importante de revenus angolais.
Et est-ce que ça, Didier Péclard, c'est nouveau? Est-ce que la diversification de l'économie angolaise, son prédécesseur José Eduardo dos Santos ne s'y était jamais attaqué?
Le discours sur la diversification de l'économie angolaise n'est pas nouveau. Effectivement, depuis surtout la fin de la guerre civile en 2002, durant les années de boom incroyable que l'Angola a connu entre 2002 et 2008-2009, même si on savait ce boom, évidemment, basé surtout sur l'augmentation des cours du pétrole dans les marchés, sur les marchés mondiaux, le gouvernement angolais, José Eduardo Santos en tête, a commencé à avancer un discours sur la nécessité de diversifier l'économie. Il y a aussi une zone économique spéciale qui a été créée dans la banlieue de Luanda pour attirer des investisseurs. Mais en fait, disons, la crise économique, enfin la crise ou plutôt la chute dramatique des prix des cours du pétrole en 2014 a montré ce qu'on savait, c'est-à-dire que le roi est nu et que en fait cette diversification n'a absolument pas eu lieu et que tout le boom, encore une fois, a été dépendait directement du pétrole.
Et aujourd'hui, l'Angola manque cruellement de devises étrangères. La France a d'ailleurs réduit quasiment de moitié ses exportations. Didier Péclard, malgré la situation économique, est-ce que la France a intérêt à miser sur ce pays, à participer justement à cette diversification de l'économie angolaise?
Ah, c'est certainement le pari que tente ou l'argument que va faire valoir João Lourenço, c'est sur le fait que l'Angola ne se résume pas à son pétrole, même si ça a été le cas jusqu'à maintenant, et qu'au contraire, il y a justement un immense potentiel, que ce soit dans l'agriculture ou éventuellement la transformation sur place, une industrialisation naissante en Angola, mais disons qu'on en est encore vraiment au niveau du discours et que rien n'a été véritablement fait concrètement depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço, qui date effectivement il y a 8 mois, donc tout ne peut pas changer si rapidement.
Alors l'autre objectif de cette visite à Paris, Juliana Lima, elle est diplomatique. Paris compte sur Luanda pour faire pression sur la République démocratique du Congo. On est à 6 mois d'élections qui devraient normalement marquer le départ de Joseph Kabila. Quelle est la position de l'Angola dans ce dossier? Pourquoi finalement c'est un pays aussi important pour la France qui veut faire pression donc sur Kinshasa?
La position de l'Angola, elle est un peu ambiguë. En fait, effectivement, João Lourenço déclare qu'il est aux côtés de l'Union africaine, qui d'ailleurs Paul Kagame a été en France la semaine dernière. Donc, cette visite dans ses côtés diplomatiques vis-à-vis de la résolution du conflit en RDC, ça rentre un peu dans cette continuité de la visite de président rwandais et actuel président de l'Union africaine à Paris la semaine dernière. Et João Lourenço, effectivement, il soutient ouvertement et publiquement l'intention de l'Angola de faire pression sur la RDC pour que les élections s'y tiennent effectivement les 23 décembre de cette année.
Quel est l'intérêt de l'Angola à ce qu'il y ait des élections? On imagine qu'elle ne souhaite pas un pays en crise à sa frontière. Juliana Lima.
Oui, effectivement, il y a toute la question de la stabilité politique de la région, mais aussi toute l'ambiguïté de ces relations entre l'Angola et la République démocratique du Congo se situe aussi dans les faits que João Lourenço, il est le président élu après la sortie d'un président qui était au pouvoir depuis plusieurs années, et Joseph Kabila qui veut justement garder son pouvoir. Donc il y a une tension visible effectivement qui pourrait être perçue dans ces relations-là, et c'est pour ça que je dis que la relation peut être un peu ambiguë. Peut-être que Didier, il aurait aussi des choses à dire.
Didier Péclard, est-ce que sur ce dossier justement, João Lourenço affiche sa différence? Il est présent dans toutes les grandes conférences régionales, il y a une certaine recherche de faire peser aussi son pays sur la scène internationale. Est-ce que là justement, c'est ce dont il fait preuve autour du dossier congolais?
Effectivement, il semblerait que João Lourenço, depuis qu'il a pris le pouvoir, veut être beaucoup plus présent sur la scène à la fois régionale et internationale au sens large que ne l'était son prédécesseur. On sait que José Eduardo Santos était quelqu'un de plutôt retenu, et ça s'exprimait aussi dans sa façon de gérer la diplomatie de l'Angola. D'ailleurs, ça a été un des échecs de José Eduardo Santos depuis la paix en 2002. Il a essayé de se prévaloir de sa figure de faiseur de paix, vu qu'il a mis il a mis fin au conflit en Angola, de se prévaloir de cette figure-là pour jouer un rôle sur la scène régionale, notamment dans les conflits, dans les Grands Lacs et notamment en RDC, mais ça n'a jamais été couronné de succès. Et il y a certainement un enjeu pour Joao Lourenço, d'une part, à avoir une part plus, à jouer un rôle plus important sur la scène internationale, et s'il arrivait aussi à pouvoir se prévaloir d'un succès important en RDC par rapport à la crise actuelle, évidemment, ce serait tout à son avantage.
Nous avons la prétention d'approfondir l'état de droit démocratique, notamment en renforçant les institutions et en permettant le plein exercice de la citoyenneté avec un rôle accru de la société civile. Nous nous engagerons dans le domaine de la réforme de l'État de façon à permettre le développement harmonieux et durable du territoire et des communautés. Pour cela, il est impératif de diversifier l'économie et combattre les asymétries régionales.
Joao Lourenço, que l'on entend donc, c'était lors de sa prestation de serment le 26 septembre dernier, Juliana Lima, ce qui est assez frappant quand on relit les articles de l'époque, c'est de voir à quel point le nouveau président angolais était perçu, alors juste avant son élection, comme un ersatz de dirigeant, un pantin du MPLA, le parti au pouvoir. On ne prédisait aucun bouleversement pour l'Angola. Est-ce que Joao Lourenço a fait mentir les observateurs et même, il faut le reconnaître, les journalistes?
Effectivement, à l'époque des élections, on disait que Joao Lourenço était le candidat de la continuité et personne ne s'attendait à qu'un certain nombre de mesures qu'il a prises juste après son élection soient effectivement mises en place. Mais je sais pas jusqu'à quelle mesure on pourrait dire qu'il a fait mentir ses remarques. Ouais. Parce que effectivement il y a tout un tas de mesures qui ont été prises et qui vont à l'encontre de ce qu'on s'attendait d'un candidat de continuité, dans le sens où on imaginait que Joao Lourenço était là pour maintenir les status quo, or qu'il a exonéré des figures importantes, y compris la fille du président Isabel dos Santos, qui était à la tête des Sonangol, son fils aussi qui était à la tête du Fonds Souverain, aussi d'autres, les chefs de la police, les chefs du renseignement qui étaient aussi des proches de José Eduardo Santos et lesquels José Eduardo Santos avait d'ailleurs renouvelé leur mandat et essayé de verrouiller toute possibilité pour le nouveau président, pour le président arrivant justement de l'exonérer. Donc effectivement les scénarios étaient un scénario des continuités, mais effectivement, on ne sait pas jusqu'à quel point aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour dire qu'il y a un vrai changement de ce côté-là. Est-ce qu'on est vraiment dans la rupture ou est-ce que c'est plutôt une mise en scène ou une ouverture petit à petit à laquelle on est en train de voir.
Didier Péclard, vous-même, vous avez été étonné des premières mesures appliquées par Joao Lourenço. Juliana Lima le disait, un grand ménage au sein de l'élite politique, avec évidemment d'abord Isabel dos Santos qui était à la direction de la compagnie pétrolière Sonangol. Est-ce que vous avez été surpris?
Oui, je crois que je faisais partie des observateurs qui voyaient dans Joao Lourenço un candidat de la continuité, qui voyaient surtout un régime bétonné, entre guillemets, si on passait l'expression, par José Eduardo dos Santos. Or, ce qu'on avait peut-être sous-estimé, c'est le fait que Joao Lourenço avait hérité aussi des pouvoirs très importants que confère la constitution angolaise à son président. Donc, il en a utilisé, je dirais pas pour un changement, pour mettre en œuvre un changement d'élite à la tête du pays. Je crois que pour l'instant, c'est vraiment une attaque clairement menée contre le clan dos Santos, le clan biologique premièrement, et le clan politique dans un second temps, dans un second cercle si vous voulez. Maintenant effectivement, la question qui se pose encore, c'est de savoir dans quelle mesure ça augure d'une véritable ouverture du système, d'une démocratisation ou pas, je crois que la question reste posée. Mmh. Un autre point qui me semble important aussi, c'est que avec Joao Lourenço, c'est la victoire du MPLA en tant que parti. Je crois que José Eduardo dos Santos, vers la fin de son dernier mandat, avait probablement franchi un certain nombre de lignes rouges, notamment en personnalisant, si vous voulez, en nommant des membres de sa famille proche à des postes très importants, franchi des lignes rouges contre lesquelles, en fait, le MPLA s'est finalement dressé, en imposant Joao Lourenço comme candidat à la succession de José Eduardo dos Santos, dans une perspective de se maintenir au pouvoir dans le long terme. Un scénario un petit peu proche de celui qu'on a vu en Afrique du Sud, Sud et au Zimbabwe.
Son rôle d'implacable liquidateur, on va le dire, est quand même critiqué, notamment par le célèbre journaliste angolais Raphaël Marques. Celui-ci dénonce une justice à deux vitesses. Il regrette par exemple que l'ancien vice-président, ancien PDG de la Sonangol, Manuel Vicente, ne soit inquiété dans son pays.
Vicente doit être jugé pour la pire période de pillage des ressources de la Sonangol. Ce n'est même pas Isabel dos Santos ou les enfants de l'ancien président qui l'ont fait, mais Manuel Vicente. Et quand le président Lourenço devient son plus grand défenseur et empêche qu'il soit traduit en justice au Portugal, il expose deux tendances de son administration. D'abord, il ne respecte pas l'état de droit. Ensuite, peu importe ce que les gens ont fait, s'ils sont ses amis, il est prêt à risquer sa réputation, le fonctionnement de l'État et les relations diplomatiques de l'Angola. Donc, il n'est pas là pour défendre l'Angola, l'État ou le peuple, mais ses amis, ses nouveaux petits sbires.
Juliana Alima, qu'est-ce que vous comprenez de cette stratégie anticorruption pour Raphaël Marques, ce journaliste anticorruption, justement? Il s'agit plutôt d'une lutte assez impartiale. On choisit un petit peu les élites qui doivent disparaître ou être écartées.
Je pense que ça soulève un point important de toute l'ambiguïté de, justement, de l'association de José Eduardo Santos, qui est celle de comment maintenir, qui on protège effectivement, quelles sont les lignes qu'on va tirer, quelles sont les ficelles qu'on va tirer pour protéger un certain nombre de personnes, notamment justement des poursuites judiciaires. Je pense que ça, c'est une question très importante. À la fois, Manuel Vicente, c'est un cas atypique, mais il n'y a pas que Manuel Vicente, il y a aussi d'autres personnes qui pourraient éventuellement venir à être jugées par des affaires de blanchiment d'argent, de corruption, etc. Et quelle serait donc effectivement la position des Jean Lourenço vis-à-vis de ces poursuites?
S'il ne les poursuit pas, en tout cas, il risque d'y avoir une déception de la part de la population angolaise. C'est assez marquant, cette lutte anticorruption, Juliana Alima.
Je pense qu'il y a... Si on entend par lutte anticorruption à l'exonération d'un certain nombre de personnes qui pourraient être effectivement mêlées à des questions de corruption au sein du gouvernement, c'est qu'il y a donc suite aux exonérations, on pourrait effectivement dire que il y a un pas dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, je ne vois pas de vraies politiques anticorruption qui a été mise en place, des mesures concrètes qui ont été mises en place par les présidents Jean Lourenço pour essayer de moraliser effectivement la politique angolaise.
Donc des mesures spectaculaires, mais pas vraiment de politique. Didier Péclard, on a entendu Raphaël Marques, célèbre journaliste. Il risque jusqu'à 3 ans de prison pour une enquête sur le procureur général de la République, qui l'accuse d'ailleurs d'être corrompu. C'était l'une des promesses de João Lourenço, l'ouverture de l'espace démocratique, notamment celui de la presse. 8 mois après, on en est où ?
Je crois qu'effectivement la situation de Raphaël Marques montre toute l'ambiguïté de ces déclarations et cette volonté de démocratisation et d'ouverture. On a eu effectivement beaucoup de discours là autour, y compris autour de la lutte contre la corruption. Et maintenant, il y a effectivement une certaine ouverture, notamment de la société civile. Il est probablement moins difficile de par exemple manifester qu'il ne l'était au moment de la fin du règne de Touche Santos. Mais on est vraiment encore dans des pas très très timides. Et le fait qu'un Raphaël Marques soit pris sur prix à l'international en tant que journaliste et pour tout son travail anticorruption, mais que dans son pays, il risque encore d'être inculpé, montre bien aussi toutes les limites de cette ouverture-là.
Alors, pour terminer cette émission, on va évidemment évoquer ce changement incertain maintenant au sein du MPLA, donc le parti au pouvoir. José Eduardo dos Santos, l'ancien président, a confirmé vendredi qu'il allait abandonner ses fonctions en septembre à l'occasion du comité central. Ce sera plutôt que prévu. Est-ce que c'est là, Juliana Alima, qu'il faut attendre le véritable changement politique en Angola quand João Lourenço verra écarter son prédécesseur?
En fait, je pense que c'est un des enjeux très importants de l'association, c'est aussi de passer les rênes du MPLA à son successeur. C'est qui a effectivement posé beaucoup de problèmes et soulevé beaucoup de rumeurs autour d'une fracture importante au sein du MPLA. Donc ceux qui s'est rangés du côté des édouardistes, ceux qui s'est rangés plutôt du côté des Jean Lourenço. Est-ce que cette fracture, elle existe vraiment? Et comment ça sera conduit au sein du parti une fois que Jean Lourenço sera donc depuis à partir de septembre, parce qu'aujourd'hui il a été donc confirmé comme le seul candidat à la succession de José Eduardo Santos à la présidence du MPLA. et comment il va gérer les partis et ces éventuelles fractures au sein du parti au moment où il prend ses fonctions comme président du parti.
Un nouveau rendez-vous donc début septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Juliane Alima, enseignante à l'Université catholique de Paris à Sciences Po Reims. Merci à Didier Péclard, enseignant-chercheur au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Merci à toute l'équipe de décryptage à retrouver sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.